Bonjour et bienvenue. J'ai une image en tête pour commencer. Imaginez, vous êtes dans un chalet en montagne, la nuit. Vous voulez prendre une photo d'une constellation magnifique. Sauf que vous ne pouvez pas sortir, vous devez la prendre à travers la vitre du salon. Une vitre un peu vieille, qui déforme un peu la lumière et qui a, disons, quelques traces de buée. Le résultat, évidemment, il ne sera pas terrible. L'image sera un peu floue, à cause du verre, et un peu granuleuse, un peu sale, à cause de la buée. Eh bien, c'est exactement le défi des astronomes, mais à une échelle cosmique. Leurs instruments, l'atmosphère. C'est leur vitre déformée et sale. Et aujourd'hui, en s'appuyant sur une étude de Jean-Éric Campagne, on va voir comment l'IA tente de devenir, en quelque sorte, le nettoyeur de vitres le plus perfectionné de l'univers.
C'est une analogie parfaite, vraiment. Parce qu'elle contient les deux problèmes fondamentaux. Le flou, causé par la déformation de la vitre, on appelle ça la convolution en traitement d'image. C'est le processus mathématique qui transforme une image nette en image floue. Et la cause précise de ce flou, la forme de la déformation, si on veut, c'est ce qu'on nomme la fonction d'étalement du point, la PSF. C'est un peu l'empreinte digitale de l'instrument et de l'atmosphère.
D'accord.
Et puis, il y a la buée, les petites saletés, ça c'est le bruit. Du grain aléatoire qui est ajouté par les capteurs électroniques, un peu comme le souffle sur un vieil enregistrement audio.
D'accord. Donc on a un flou, la convolution et du grain, le bruit. La question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement déflouter ? Si on connaît la déformation, on doit bien pouvoir faire l'opération mathématique inverse, non ? Un peu comme si on utilisait un filtre netteté puissance 1 million sur Photoshop.
C'est la toute première idée qui vient à l'esprit, oui. Et c'est ce qu'on appelle la déconvolution naïve. Le problème, c'est que ça ne marche absolument pas. L'étude le montre très très bien avec une image du télescope Hubble. En essayant d'inverser mathématiquement le flou, on ne fait pas que renforcer les détails de la galaxie, on amplifie aussi de manière catastrophique le moindre grain de bruit. Chaque petite imperfection est démultipliée jusqu'à recouvrir complètement l'image.
Ah oui, d'accord.
Le résultat est pire que le point de départ, c'est une bouillie de bruit totalement illisible.
C'est comme essayer de monter le volume d'un enregistrement pour mieux entendre une voix lointaine et se retrouver avec...
un vacarme assourdissant.
Exactement.
C'est précisément ça. Et c'est là que la véritable question de l'étude se pose. Puisqu'on ne peut pas appliquer une formule simple, est-ce qu'on peut entraîner une intelligence artificielle à faire le travail ? Plus précisément, une architecture de réseau de neurones appelée UNET pour réaliser ce qu'ils appellent une déconvolution aveugle de bout en bout.
Aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'IA travaille dans le noir ?
En quelque sorte, oui. Aveugle signifie qu'on lui présente une image dégradée et on lui demande de la corriger, sans lui donner la moindre information sur la cause du problème. On ne lui dit pas « voici la PSF, le flou ressemble à ça » ou « attention, le niveau de bruit et de temps ». On lui dit juste « voici une image moche, rends-la belle ». C'est lui demander de nettoyer la vitre sans lui dire si elle est déformée, sale ou les deux, ni à quel point.
C'est fascinant. Surtout que, d'après les sources, cette architecture UNET n'a même pas été inventée pour l'astronomie.
Ah non, pas du tout.
Elle vient du monde médical, pour aider à repérer des tumeurs dans des scanners. C'est un sacré changement de carrière.
C'est souvent comme ça que la science progresse, en appliquant des outils d'un domaine à un autre. Et pour bien saisir la portée de cette approche aveugle, il faut la comparer à la méthode classique. La méthode de référence, c'est la régularisation de Tikhonov.
Tikhonov. Un nom un peu barbare. Ça consiste en quoi, en gros ?
Alors, le principe est assez élégant. C'est une méthode de compromis. Elle cherche une image qui coche deux cases. D'un côté, elle doit rester fidèle à ce qu'on a observé, même si c'est flou. Ça, c'est la fidélité aux données.
D'accord.
De l'autre, on lui impose une contrainte de plausibilité. On lui dit que l'image finale doit être lisse, qu'elle n'a pas le droit d'avoir des variations brutales, absurdes. C'est la régularisation, c'est une sorte de garde-fou qui empêche la solution de partir dans tous les sens en créant du bruit, comme dans la déconvolution naïve.
Donc si je comprends bien, c'est un équilibre. En gros, ressemble à la photo de départ, mais ne devient pas folle en essayant d'être trop nette. C'est ça ?
C'est une excellente façon de le résumer. Mais il y a un mais, et il est de taille. Pour que ce compromis fonctionne, il faut nourrir la méthode avec des infos cruciales. Il faut lui donner la notice. Il faut connaître la PSF, la nature exacte du flou. Et il faut connaître le niveau de bruit pour bien régler le curseur du compromis. Ce n'est absolument pas une méthode aveugle.
C'est pas aveugle du tout.
Non, c'est comme assembler un meuble. C'est faisable, mais seulement si vous avez le plan.
Et c'est là qu'on voit à quel point l'approche de l'étude est radicale. Avec le UNET, on jette le plan à la poubelle.
Exactement.
On ne lui donne aucune règle mathématique, aucun garde-fou explicite. À la place, on lui montre des dizaines de milliers d'exemples. Pour chaque cas, on lui présente une image dégradée et, juste à côté, l'original parfaite. Et on lui dit en gros, débrouille-toi pour apprendre le chemin qui mène de l'une à l'autre.
C'est un changement total de philosophie. On ne programme pas la solution. On crée un système capable de la découvrir par lui-même, par l'expérience.
D'accord, cette préparation est impressionnante. Mais au final, ce qui compte, c'est le résultat. Alors, comment ils ont fabriqué ces milliers d'exemples? J'imagine qu'ils n'ont pas passé des années à prendre 40 000 mauvaises photos de galaxies.
Et non, et c'est là que la méthode est très astucieuse. Ils sont partis d'une base de données d'images réelles de très haute qualité, le Cosmos Real Galaxy Dataset, qui vient du télescope Hubble. Ce sont leurs originaux parfaits. Ensuite, ils ont utilisé un simulateur incroyablement puissant, GalSim, pour jouer le rôle de la fameuse vitre sale et déformée.
Ils ont construit un simulateur de mauvaises photos.
C'est exactement ça. Et un simulateur dynamique. Pour chaque image de galaxie parfaite, ils ne créent pas une seule version dégradée, mais une infinité de versions possibles. Ils appliquent des rotations aléatoires, des déformations, puis ils appliquent un flou, une PSF, qui simule à la fois l'optique d'un télescope et surtout des conditions atmosphériques variables. C'est le fameux seeing qui fait scintiller les étoiles. Et pour finir, ils ajoutent une dose de bruit, comme celui des vrais capteurs.
Attendez, ça veut dire que l'IA ne voit jamais deux fois exactement le même problème?
Jamais.
On l'empêche de tricher en apprenant les réponses par cœur.
C'est le point absolument crucial de la démarche. En la forçant à voir une variété quasi infinie de dégradations, on l'oblige à apprendre non pas des solutions, mais une stratégie générale de résolution. C'est la différence entre un étudiant qui mémorise 10 exercices et celui qui comprend la formule pour en résoudre des milliers. Et en faisant varier la taille du jeu de données, jusqu'à 40 000 images, ils peuvent mesurer précisément l'importance de cette expérience pour la performance.
L'idée est belle, la méthode est rigoureuse, mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que ça marche? Le résultat est à la hauteur.
Les images parlent d'elles-mêmes. L'étude présente une grille de résultats, la figure 4, qui est spectaculaire. D'un côté, on voit des galaxies qui sont des taches floues et granuleuses, où on peine à distinguer la moindre structure. Et à côté, les versions restaurées par le UNET. C'est le jour et la nuit. Les bras spiraux réapparaissent, le cœur de la galaxie redevient net. Visuellement, le gain est indéniable. Et les mesures de qualité d'image, comme le PSNR, le confirment. Les scores explosent.
Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'entraînement? Est-ce qu'il faut vraiment 40 000 images pour y arriver?
C'est une autre leçon intéressante. Les performances s'améliorent très vite au début, à mesure qu'on ajoute des images. Puis, la courbe de progression commence à s'aplatir autour de 5 000 images. Ça ne veut pas dire que c'est inutile d'en ajouter plus, mais les gains deviennent marginaux. Le message, c'est qu'il faut une base solide pour que l'apprentissage soit efficace, mais on n'a pas besoin de l'infini.
Il y a un point de rendement décroissant, en quelque sorte.
Oui, mais il y a une autre expérience dans l'étude que je trouve encore plus parlante. Pour évaluer la fiabilité du système, les chercheurs ont pris un risque. Ils ont entraîné deux modèles UNET complètement séparés, deux jumeaux élevés dans des environnements un peu différents, avec des jeux de données distincts. Ensuite, ils leur ont donné les mêmes images de test à restaurer et ils ont comparé leurs résultats.
Pour voir s'ils étaient d'accord.
Exactement. Et le résultat est fascinant. Quand les modèles sont entraînés sur peu de données, leurs résultats sont assez différents. Mais plus on augmente la taille des données d'entraînement, plus leurs résultats se ressemblent, jusqu'à devenir quasiment identiques. La mesure de similarité cosinus entre leurs images restaurées tend vers 1, ce qui signifie une quasi-parfaite correspondance.
Waouh ! Ça veut dire que même en partant de zéro, en apprenant chacun de leur côté, les deux IA finissent par converger vers la même solution.
La même solution unique et correcte.
C'est comme s'ils escaladaient une montagne par deux versants différents et se retrouvaient exactement au même sommet. Ça prouve que le sommet existe vraiment, que ce n'est pas une solution au hasard.
C'est un argument extrêmement puissant en faveur de la robustesse et de la stabilité de la méthode. On n'a pas juste une solution qui a l'air bonne, on a une solution vers laquelle des systèmes indépendants convergent.
D'accord. C'est ici qu'on arrive au moment crucial, la confrontation, le match. D'un côté, le UNET, qui travaille en aveugle, de l'autre, la méthode classique, kick-on-off. Et il faut insister sur le fait que le match est truqué au départ.
C'est le moins qu'on puisse dire. Pour la méthode de Tikhonov, les chercheurs lui donnent toutes les réponses. On lui fournit la vraie PSF, celle qui a servi à créer le flou, c'est la clé de l'énigme. On va même jusqu'à optimiser ses paramètres pour qu'elle donne le meilleur résultat possible. C'est une méthode oracle, elle sait tout.
Elle a la solution.
Le Yonette, lui.
Il arrive les mains dans les poches. Stop. Laissez-moi être sûr de bien comprendre. On a une méthode classique, Tikhonov, à qui on donne la feuille de triche avec toutes les réponses, et de l'autre, on a le Yonette qui arrive sans avoir révisé, sans aucune info. Et vous me dites que celui qui n'a pas triché a lu une meilleure note.
Dans les conditions les plus difficiles, oui, c'est exactement ça. Pour les images les plus dégradées, celles avec un très faible rapport signal sur bruit, donc beaucoup de buée et une grosse déformation sur notre vitre, le Yonette aveugle fait mieux que la méthode de Tikhonov oracle.
Pardon, mais c'est complètement contre-intuitif. Comment c'est possible ?
C'est la principale révélation de cette étude. Ça suggère que l'intuition acquise par le réseau neuronal sur des milliers d'exemples est plus puissante qu'une formule mathématique parfaite mais rigide. La méthode de Tikhonov a beau connaître la cause du flou, son garde-fou, sa contrainte de lissage est peut-être trop simple, trop générique. Le Yonette, lui, a appris implicitement à quoi ressemble une vraie galaxie. Il a appris des stratégies de reconstruction beaucoup plus sophistiquées, plus adaptées aux structures complexes des galaxies, qui lui permettent de mieux séparer le signal du bruit dans des situations extrêmes.
C'est fascinant. Ça me fait penser à ces experts d'échecs, qui ne peuvent pas toujours expliquer leur intuition. Ils sentent le bon coup. L'IA a développé une sorte d'intuition pour la physique de la lumière. Bon, donc sur son terrain de jeu, le Yonette est un champion. Mais la vraie vie, c'est rarement aussi propre. Qu'est-ce qui arrive si on le sort de sa zone de confort? Si on lui montre un type de flou ou de bruit qu'il n'a jamais appris à gérer?
C'est la question essentielle de la généralisation. Un bon modèle doit savoir gérer l'imprévu. Les chercheurs ont donc mené deux tests de torture, en quelque sorte. Le premier concerne le flou atmosphérique, le cygne. Ils ont entraîné un modèle sur des images avec un flou faible et l'ont testé sur des images avec un flou très fort. Et vice-versa. Le résultat est plutôt positif. Le modèle est assez flexible. Évidemment, il est meilleur quand les conditions de test ressemblent à son entraînement, mais il ne s'effondre pas face à un flou inconnu. Il s'adapte.
Il est robuste face au flou, et pour le bruit, le grain.
Alors là, c'est une autre histoire. Le modèle est beaucoup plus susceptible. Le deuxième test porte sur le niveau de bruit et la conclusion est sans appel. Un modèle n'est performant que s'il a été entraîné avec des niveaux de bruit égaux ou supérieurs à ceux qu'il rencontre en test.
Ah.
Si vous entraînez un modèle uniquement sur des images très propres avec peu de bruit et que vous lui présentez une image très bruitée, il est complètement perdu. Il échoue lamentablement.
Donc pour le bruit, il faut l'entraîner pour l'apocalypse, si j'hâte. Il doit avoir vu le pire scénario possible pour pouvoir gérer des situations plus calmes.
C'est une excellente image. Pour le bruit, le réseau doit être préparé au pire. C'est une limite importante de l'approche qui nous dit que la composition du jeu de données d'entraînement est absolument critique, surtout en ce qui concerne la gamme de bruit qu'il couvre.
D'accord. Si je devais résumer ce que j'ai compris de cette exploration, je dirais trois choses. Primo, une IA conçue pour la médecine, un Yonette, peut apprendre à nettoyer des images de galaxies sans qu'on lui explique le problème. Deuxio, pour y arriver, elle a besoin d'un bon simulateur et de voir des milliers d'exemples pour développer une vraie stratégie. Et tertio, le plus fou, cette stratégie intuitive peut devenir meilleure que les méthodes classiques, même quand ces dernières ont la solution sous les yeux.
C'est un résumé parfait. Et si on essaie de regarder dans la boîte noire ? L'étude propose une interprétation. Le Yonette n'apprend pas juste à inverser un filtre. Il apprend à décomposer l'image d'une galaxie d'une manière incroyablement efficace. Les auteurs parlent de base harmonique géo-adaptative. Pour faire simple, c'est un peu comme si le réseau apprenait à créer un kit de pièces de Lego, mais un kit spécifiquement conçu pour construire des galaxies. Des pièces qui correspondent aux bras spiraux, aux bulbes centraux.
Il apprend la grammaire visuelle des galaxies.
C'est une très belle façon de le dire. En ayant ce vocabulaire parfaitement adapté, il peut décrire une image très complexe avec très peu d'informations. C'est ce qu'on appelle une représentation éparse. Et quand vous savez extraire l'essence d'un signal, il devient beaucoup plus facile de jeter tout le reste, c'est-à-dire le flou et le bruit.
C'est très clair. Mais il y a un dernier point qui me chicote. L'IA nous donne une magnifique image restaurée, mais elle le fait sans jamais nous dire quel était le flou précis qu'elle a corrigé. La fameuse PSF. La méthode classique, Tikhonov, elle au moins, essayez d'estimer les deux, l'image et le flou.
Et vous mettez le doigt sur une question philosophique fascinante, qui est parfaite pour conclure. L'approche YouNet a trouvé la destination, l'image nette, sans jamais cartographier explicitement le chemin, sans identifier le problème.
Ce qui nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. Si une IA peut résoudre un problème aussi complexe sans jamais identifier, nommer ou quantifier une de ses composantes essentielles, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la compréhension ? Et de la résolution de problèmes. Se pourrait-il que l'information sur ce flou, la PSF, ne soit pas vraiment perdue, qu'elle soit là, quelque part, diluée et encodée implicitement dans les millions de connexions du réseau, attendant simplement qu'on invente un nouvel outil, non pas pour nettoyer l'image, mais pour lire dans les pensées de l'IA.